Aristote, Rhétorique, livre 1, chapitre 12. Quels sont les gens qui font du tort? Quel genre de mal font-ils et à qui? 1. On a exposé les choses en vue desquelles on peut causer un préjudice. Or, nous allons parler maintenant de la disposition et de la condition des gens qui cause un préjudice. On agit ainsi lorsque l'on pense que l'action préméditée est possible en général et que l'on peut l'accomplir, soit qu'elle reste ignorée, soit, si elle ne reste pas ignorée, qu'on puisse l'accomplir sans en porter la peine, ou qu'on en porte la peine, mais que le châtiment soit moindre que le profit espéré pour nous-mêmes ou pour ceux qui nous intéressent. Quant au caractère de possibilité et d'impossibilité, nous en parlerons dans la suite, car ces caractères sont communs à toutes les parties de la rhétorique. 2. Ceux-là sont dans la possibilité de nuire impunément, qui ont la faculté d'élocution, la pratique des affaires et l'expérience de luttes nombreuses, quand ils possèdent beaucoup d'amis ou une grande fortune. 3. C'est principalement lorsqu'on est soi-même dans ces conditions que l'on croit avoir la puissance de nuire. Mais, si l'on n'y est pas, c'est lorsque l'on y voit ses amis ou ses serviteurs ou ses complices. En effet, grâce à cette ressource, on peut agir, éviter d'être découvert et se dérober au châtiment. 4. C'est encore lorsqu'on est l'ami des personnes préjudiciées ou des juges. Les amis ne se tiennent pas en garde contre le préjudice et d'ailleurs tentent un arrangement avant d'attaquer en justice. D'autre part, les juges favorisent ceux dont ils sont les amis et tantôt prononcent pur et simple le renvoi des fins de la plainte, tantôt infligent une peine légère. 5. On a chance de n'être pas découvert lorsque l'on est dans une condition qui écarte l'imputation, comme par exemple si des voies de fait sont imputées à un homme débile, ou le crime d'adultère à un homme pauvre ou à un homme laid, ou encore lorsque les faits s'accomplissent en pleine évidence et aux yeux de tous, car on ne s'en garde pas, pensant que personne ne saurait en être l'auteur dans ces conditions. 6. Il y a aussi les choses tellement graves et de telle nature que pas un seul ne s'en rendrait coupable, car on ne s'en garde pas non plus. Tout le monde se garde contre le préjudice ordinaire, comme on le fait contre les maladies ordinaires. Or, contre une maladie qui n'a jamais affecté personne, nul ne songe à se garantir. 7. De même, ceux qui n'ont pas un seul ennemi et ceux qui en ont un grand nombre. En effet, les premiers pensent qu'ils ne seront pas découverts parce qu'ils n'inspireront pas de défiance, et les seconds ne sont pas découverts parce qu'on ne peut supposer qu'ils auraient agi contre des gens prévenus, et aussi parce qu'ils peuvent dire, pour leur défense, qu'ils n'auraient pas été faire du tort dans ces conditions. 8. De même, ceux qui peuvent cacher un objet volé, le transformer, le déplacer et le vendre facilement. Ceux qui, n'ayant pu éviter d'être découverts, peuvent écarter une action judiciaire, obtenir un ajournement, corrompre les juges. Il y a encore ceux qui, si une peine leur a été infligée, peuvent en repousser l'exécution ou gagner du temps, ou qui, vu leur indigence, n'auront rien à perdre. 9. De même, ceux qui trouvent, dans le préjudice causé par eux, un profit manifeste, ou d'une grande importance, ou très prochain, tandis que la peine portée contre eux est minime, ou non apparente, ou éloignée. De même, celui qui n'encourt pas une punition en rapport avec l'utilité de l'action commise, ce qui paraît être le cas de la tyrannie. 10. De même, ceux à qui le préjudice causé par eux procure un avantage positif, tandis que la peine infligée ne consiste qu'en affront. Et ceux qui trouvent, au contraire, dans le mal qu'ils ont fait, l'occasion de recevoir des louanges. Par exemple, s'il arrive que l'on venge tout ensemble et son père et sa mère, ce qui était le cas de Zénon, tandis que la peine est une amende ou l'exil ou quelque chose d'analogue. En effet, les uns et les autres causent un préjudice. Ils ont leur situation respective, seulement ils ne sont pas les uns et les autres dans le même cas, mais plutôt dans un cas opposé au point de vue de leur moralité. 11. De même encore, ceux qui ont agi souvent sans être découverts ou sans subir de peine, ceux qui ont souvent échoué dans leurs tentatives. En effet, il arrive souvent à certaines personnes qui seraient dans de telles conditions, ce qui arrive à celles qui prennent part à des opérations militaires, d'être disposées à revenir à la charge. 12. De même, ceux pour qui l'action immédiate est agréable et fâcheux l'effet ultérieur, ou encore ceux pour qui le profit est immédiat et la punition différée, car de tels gens sont intempérants. Or, l'intempérance porte sur tout ce que l'on désire passionnément. 13. De même, ceux pour qui, au contraire, l'ennui ou la punition survient immédiatement, tandis que le plaisir ou le profit doivent leur venir plus tard et durer plus longtemps, car ce sont les gens tempérés et de plus de sens qui poursuivent un tel but. 14. Ajoutons-y ceux auxquels il peut arriver de paraître agir comme par hasard ou par nécessité, ou par un mobile naturel, ou enfin par habitude, et au résumé, commettre une erreur plutôt qu'une injustice, et ceux qui ont lieu de rencontrer de l'indulgence. 15. De même, ceux auxquels il manque quelque chose. Or, ils sont de deux sortes. Il y a ceux à qui manque une chose nécessaire, comme les pauvres, et ceux à qui manque une chose superflue, comme les riches. 16. De même, ceux qui jouissent d'une excellente réputation, et ceux dont la réputation est détestable. Les uns, parce qu'ils ne seront pas crus coupables. Les autres, parce qu'ils ne peuvent plus rien perdre en fait d'estime. Telles sont les catégories de personnes qui entreprennent de causer un préjudice. 17. Voici maintenant les catégories de personnes à qui l'on cause un préjudice et en quoi consiste le préjudice causé. Il y a d'abord les gens qui possèdent ce dont on manque soi-même, soit pour le nécessaire, soit pour le superflu, soit enfin pour la jouissance. 18. Ceux qui sont loin de nous et ceux qui sont tout proches. Ceux-ci, parce que l'action coupable est promptement accomplie, ceux-là, parce que la vengeance sera tardive, comme par exemple ceux qui dépouillent les Carthaginois. 19. Ceux qui ne se méfient pas et qui ne sont pas d'un caractère à se tenir en garde, mais plutôt à donner leur confiance, car il n'en est que plus facile d'échapper à leur surveillance. Les personnes nonchalantes, car il n'appartient qu'à l'homme vigilant d'attaquer celui qui lui fait tort. Les gens discrets, car ils n'aiment pas à guerroyer pour une question d'intérêt. 20. De même, ceux qui ont supporté un préjudice de la part de plusieurs personnes sans les attaquer. En effet, ce sont eux qui sont, comme dit le proverbe, la proie des misiens. 21. De même, ceux à qui l'on n'a jamais fait tort et ceux à qui l'on a fait tort fréquemment. Car les uns et les autres ne songent pas à se tenir en garde. Les premiers, parce qu'ils n'ont jamais été victimés. Les seconds, parce qu'ils croient ne plus pouvoir l'être. 22. Ceux qui ont été poursuivis par la médisance et ceux qui peuvent y être exposés. Car, lorsqu'on est dans ce cas, on ne tente pas de convaincre des juges que l'on redoute, et l'on ne peut songer à se justifier devant des gens qui vous haïssent ou vous portent envie. 23. De même, ceux contre lesquels nous avons à prétexter que leurs ancêtres ou eux-mêmes ou leurs amis ont fait du mal ou se disposent à en faire, soit à nous-mêmes, soit à nos ancêtres, soit encore à ceux qui nous intéressent. En effet, comme dit le proverbe, la méchanceté ne demande qu'un prétexte. 24. On cause un préjudice à ses ennemis et aussi à ses amis. À ceci, parce que c'est chose facile. À cela, parce que c'est un plaisir. De même à ceux qui n'ont pas d'amis, à ceux qui manquent d'habileté pour parler ou pour agir, car tantôt ils ne s'engagent pas dans une attaque en justice, tantôt ils acceptent une transaction, ou enfin ne vont pas jusqu'au bout de leur attaque. 25. De même encore, ceux qui ont plus à perdre qu'à gagner en consumant leur temps à attendre un jugement ou l'acquittement d'une indemnité, comme par exemple les étrangers ou ceux qui travaillent de leurs mains, car ils se désistent à bon compte et retirent volontiers leur plainte. 26. De même, ceux qui ont commis de nombreuses injustices ou des injustices du genre de celles qui leur sont faites. En effet, c'est presque ne pas être injuste que de causer à quelqu'un le préjudice qu'il cause d'ordinaire à autrui. Je parle du cas où, par exemple, on outragerait un individu qui aurait l'habitude de dire des injures. 27. Ceux qui nous ont fait du mal ou qui ont voulu ou veulent nous en faire, ou enfin, qui nous en feront. En effet, agir ainsi est agréable et beau, et même, c'est presque ne pas faire acte d'injustice. 28. On fait du mal pour ceux à qui l'on veut plaire, pour des amis, pour des gens qu'on admire, pour un bien-aimé, pour nos maîtres, en un mot, pour ceux à qui l'on consacre sa vie, et aussi pour ceux de qui l'on attend des égards. 29. Les personnes à qui l'on cause un préjudice sont encore celles contre lesquelles on lance une accusation et avec qui l'on a rompu préalablement. Et en effet, un tel procédé est bien près de ne pas être un acte d'injustice. C'est ainsi que Calippe agit envers Dion. 30. Les gens qui se disposent à nous faire du mal si nous ne les prévenons nous-mêmes, attendu que dans ce cas, il n'est plus possible de délibérer. C'est ainsi que l'on dit qu'Énésidem envoya le prix du Cotab à Gélon, qui venait de soumettre une cité, parce qu'il l'avait devancé dans l'exécution de son propre projet. 31. De même, ceux que l'on aura préjudiciés pour pouvoir prendre à leur égard un grand nombre de mesures de justice, ce qui est un moyen commode de remédier au mal. C'est ainsi que Jason, le roi thessalien, dit qu'il faut commettre quelques actes injustes afin de pouvoir accomplir un grand nombre d'actes de juste réparation. 32. On fait aussi le mal que tout le monde ou le grand nombre fait habituellement, car on croit en obtenir le pardon. 33. On prend les choses faciles à cacher et celles qui sont promptement consommées, comme les objets d'alimentation, ou celle dont on modifie aisément les formes ou les couleurs ou la composition. 34. De même, les choses qu'il est facile de dissimuler en beaucoup de circonstances. Telles sont celles que l'on peut transporter sans difficulté et qui se dissimulent tenant peu de place. 35. De même, celles qui ressemblent, sans distinction possible, à ce que l'auteur du préjudice possédait déjà en grande quantité. Celles au sujet desquelles l'on a honte de se dire préjudicié, comme par exemple les outrages subis par son épouse, ou par soi-même, ou par son fils. Celles qui donneraient au poursuivant l'apparence d'aimer les procès. Sont de cette sorte les griefs de peu d'importance ou sur lesquels on passe condamnation. Voilà, ou peu s'en faut, la disposition où se trouvent ceux qui causent un préjudice, la nature du préjudice lui-même, les personnes qui l'atteignent et les motifs qui le déterminent.